Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré avec Emmanuel Terrien, Head of Design du groupe Atlantique, et Manon Malatré, designer produit, référente pour la marque Termor et référente des couleurs et matières pour le groupe Atlantique. Ils nous expliquent la place du design dans les quatre grands pôles d'activité du groupe et son organisation autour des métiers des 7 designers intégrés. Puis Manon nous explique la nécessité dans un groupe industriel de mettre en place des outils d'aide à la lecture et à la décision pour les projets dont l'équipe design est en charge. Réussir à justifier les choix des designers permet d'apporter de la valeur au design, mais surtout de définir un cadre pour fluidifier le processus de création au sein de l'entreprise. Je vous laisse découvrir notre échange. Donc, pour commencer ce podcast, comme traditionnellement, pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Bonjour Annabelle, merci, merci de nous proposer de faire ce podcast avec Emmanuel. Donc, Manon Malatré, je suis designer pour la marque Termor au sein du groupe Atlantique et donc je suis accompagnée d'Emmanuel.
Et donc, bonjour à tous, merci Annabelle. Moi, je suis Emmanuel Terrien et je suis en charge du design pour le groupe Atlantique et donc j'accompagne l'équipe de designers, futurs produits et nos futurs développements.
Pour présenter mon parcours, je suis passée par différentes écoles. J'ai vraiment fait le choix de l'alternance donc, pour découvrir différents postes de designer intégré. J'ai fait un BTS design produit à Lyon, à La Martinière. Ensuite, je suis passée par une licence donc à Villefontaine qui m'a permis de faire cette licence en alternance. Et du coup, c'est à cette période où j'ai rencontré donc Denis Rochefort qui s'occupe également de la CDI. Donc, j'ai fait mon alternance dans le groupe Camping Gaz qui était rattaché à Coleman avec Denis et Shani Ripper. Donc ça, c'était entre 2011 et 2013. Donc c'était ma première expérience professionnelle. Ensuite, j'ai voulu continuer par un master, mais toujours en alternance. Et donc, j'ai fait le master à l'école de design de Nantes. Et en alternance, donc là, j'ai fait une année chez Camping Gaz. Et ensuite, la deuxième année, je l'ai fait dans le groupe SEB, donc à Écully, près de Lyon, dans l'équipe de Fabrice Renault. Suite à mon master, je suis restée un an et demi ou deux ans dans le groupe SEB en tant que designer intégré. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe Atlantique, donc dans l'équipe d'Emmanuel, en 2016. Aujourd'hui, donc, je suis designer produit pour le groupe. Je suis référente pour la marque Termor. Et je suis également donc, référente pour tout ce qui est toute la partie couleur et matière pour le groupe Atlantique.
Bah pour ma part, j'ai grandi entre les tables de dessin et j'ai sauté sur des rouleaux de tissu quand j'étais enfant, parce que ma mère était styliste. Donc, en fait, la question du dessin et de la création a été très tôt une évidence. Et je ne me souviens pas m'être posé la question de ce que j'aimerais faire. Mais en tout cas, le dessin était là, présent. Et donc, assez naturellement, même si j'ai eu une petite hésitation avec l'architecture, je me suis dirigé vers le design. Et donc, j'ai intégré l'école de design de Nantes Atlantique. Pendant l'école de design Atlantique et juste après, j'ai eu quelques expériences en France et à l'international dans des agences, mais toujours des expériences très courtes. La véritable première expérience et forte aura été chez MAPED, que vous avez d'ailleurs interviewé. J'ai eu le plaisir à écouter mes anciens collègues. Ça a été une véritable école de la créativité et du faire. Passer immédiatement de l'idée à la maquette, du test and learn, avec un renouvellement des collections qui était extrêmement rapide. De cette période, je retiens vraiment un mode de fonctionnement un peu basé sur l'observation des utilisateurs, mais finalement très intuitif. On avait très peu d'outils, il n'y avait pas de guidelines, il y avait assez peu d'enquêtes. Et étonnamment, ce n'était pas tellement ma façon de fonctionner. J'étais pas toujours confortable avec ça, mais ça tenait et ça fonctionnait très bien et les résultats étaient au rendez-vous. Et donc ça, c'était vraiment un étonnement en passant chez MAPED. Et puis j'ai pu avec Daniel Racamier à l'époque contribuer voilà à des lancements importants, des ciseaux ergonomiques, des gammes office. Et puis, voilà, le temps est passé et j'avais envie de découvrir quelque chose d'autre. Et c'est ça la magie de notre métier, c'est-à-dire que je suis passé des gommes et des crayons, sans vouloir caricaturer ma peine, parce que c'est bien plus large et bien plus riche que ça, au groupe Atlantique en 2009. Et dans le groupe Atlantique, je suis arrivé dans un environnement totalement différent, dans lequel il n'y avait d'abord pas de design, et où le marqueur était très fort sur l'ingénierie avec une approche très technique et très rationnelle. Donc ça a été la découverte d'un environnement totalement différent. Et du coup, pour parler peut-être du groupe Atlantique en quelques mots, notre métier, c'est de développer et commercialiser des solutions pour le confort thermique, donc des solutions éco-performantes. Et donc, on adresse des produits à plusieurs marchés, la maison individuelle, le building, le tertiaire. Et donc, c'est passionnant de travailler dans ces différents domaines parce que il y a plusieurs clients et ce ne sont pas les mêmes besoins. Et donc, important de comprendre le poids décisionnaire de chacun et le ressort aussi de chacun. Et on a aujourd'hui quatre grandes divisions, quatre grands pôles d'activité dans le groupe. Le pôle radiateur et eau chaude sanitaire. Donc, eau chaude sanitaire et eau chaude sanitaire thermodynamique. Le pôle climatisation et ventilation traitement d'air. Le pôle pompe à chaleur et chaudière. Et on a aussi un pôle service pour l'avant-vente, la pré-vente, mais aussi toute la formation des professionnels. Et dans ces différents pôles, on a des problématiques différentes entre des produits qui vont dans la partie home living, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire dans les pièces de vie. Et on a des produits qui vont à l'extérieur de la maison où la question de l'intégration dans leur environnement se pose. On a des produits qui sont très techniques et où la valeur doit être portée sur la qualité perçue et encore plus sur l'usage pour les professionnels. Et aussi dans le building où les enjeux sont complètement différents parce que là, on parle de système. Quand je suis arrivé dans le groupe, et on n'y voyait aucun lien, mais je suis arrivé dans le groupe, c'était une très belle PME familiale qui faisait 500 ou 600 millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est un groupe français, toujours familial, qui s'est beaucoup internationalisé et qui fait un peu plus de 3,5 milliards de chiffre d'affaires avec un portefeuille de marques conséquent, puisqu'on a 18 marques qui s'organisent autour de ces quatre pôles. Et on a 31 sites industriels, dont 15 en France, avec une volonté de produire au plus près de nos marchés. Donc, c'est un groupe formidable dans lequel j'ai pu grandir et le groupe a grandi sur le produit, à la fois avec tous les types de clients qu'on adresse, avec les problématiques aussi d'interface, de connectivité aujourd'hui, dont on a la charge au sein de l'équipe de design. Et ça fait voilà, des challenges qui sont vraiment riches. Du coup, Manon se présentait tout à l'heure et disait qu'elle était référente pour la marque Thermor. C'est l'une des marques de notre portefeuille. Peut-être avant qu'elle décrive tout ce qu'elle fait précisément pour cette marque comme un exemple plus précis, je voulais revenir sur l'organisation du design et du groupe. Donc nous, le service design, dont la mission est de créer des conforts désirables et durables, on est rattaché à la direction générale, Emmanuel Caille, qui a impulsé le design dans le groupe Atlantique. Et donc, ça nous permet d'être dans un territoire assez neutre, en collaboration avec l'ensemble des marketing, c'est-à-dire un marketing par pôle d'activité, avec les services communication de nos 18 marques, sachant que parmi nos 18 marques, on a des marques qui sont spécialistes sur leur marché, on a des marques régionales et on a des marques internationales. Donc, elles n'ont pas tout à fait le même poids en termes de chiffre d'affaires, mais elles nécessitent quand même une réflexion par rapport à leur ADN et par rapport à la façon dont on va traiter le design et la question de la différenciation sur nos plateformes produits. Et je le disais, on est en interaction aussi avec nos 31 sites industriels dans le monde. Et pour chacun d'entre eux, il y a une R&D, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de R&D centralisée. La volonté, comme je disais, est de servir nos marchés au plus près et d'avoir une indépendance de chacun des sites, ce qui fait que c'est à la fois extrêmement riche avec une force de frappe incroyable et en même temps, ça peut apporter parfois de la difficulté dans la transversalité, mais c'est aussi un beau challenge. Et je reviens à ce que je pouvais dire tout à l'heure sur les outils. Du coup, l'un de mes enjeux en tant que responsable du design pour le groupe et de créer les conditions favorables pour que toutes les équipes de designers, en cohérence avec les attentes marché du marketing et aussi les limites opportunités techniques sur les guidelines design, sur les niveaux de qualité perçus à atteindre, sur les design systems. Peut-être que je jargonne un petit peu, mais en tout cas pour bien définir ce que l'on veut sur quelle expérience client on veut sur les interfaces. Et ça, ce sont des choses vraiment importantes pour moi, pour accélérer les processus et pour faciliter les décisions.
Vous êtes combien de designers aujourd'hui ?
Eh bien, on est 7 designers, 2 personnes sur le design UX et sur les interfaces embarquées, à la fois sur les interfaces embarquées sur nos produits, mais qui travaillent aussi pour les thermostats d'ambiance, mais aussi la connectivité, les applications pour les end users et les applications pour les professionnels qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc là, il y a 2 personnes qui sont, elles, en lien avec des équipes IoT du groupe Atlantique et les équipes électroniques, puisqu'il y a une petite particularité, c'est qu'on a 2 sites électroniques en France, et donc on paie en France encore notre électronique et nos interfaces, qui est un point de relation extrêmement important entre nos clients et nos produits. C'est le premier contact, c'est la mise en service, c'est la mise en route, c'est etc. Même si c'est encore récent, voilà, il y a des avancées significatives et la construction des outils dont je parlais qui sont vraiment très enthousiasmants et ça avance. C'est un domaine assez nouveau pour moi que je connaissais pas. Et c'est Mathias Thomas qui s'en occupe dans mon équipe et je lui fais totalement confiance. Il a les compétences, la culture et vraiment une envie d'avancer dans ce sujet. Donc c'est un vrai plaisir de l'accompagner là-dessus. Ensuite, il y a une personne qui s'occupe vraiment du design, une expérience client en lien avec le marketing. L'objectif pour elle, pour Amandine, est d'explorer des nouveaux territoires d'opportunités pour le groupe Atlantique. Alors évidemment, je ne vais pas parler de ceux que l'on traite actuellement, mais de ceux qu'on a fait. On a notamment eu tout un travail sur comment rendre nos solutions accessibles à tous. La question du confort thermique, de la chaleur, étant des produits universels, comment on va vers une démarche de design plus inclusif. Et donc, on a travaillé avec l'APF France Handicap et on s'est fixé des objectifs et des enjeux pour l'accès ou rendre plus facilement accès à l'ensemble de nos produits. Et puis enfin, la partie la plus ancienne, j'ai envie de dire, c'est le design produit avec un fonctionnement aujourd'hui qui sont des référents par portefeuille de marque. Donc Manon est référente sur le portefeuille de marque Thermor et puis aussi la Darigny et d'autres marques du groupe, pour qu'elle ait, et en tout cas que chacun d'entre eux porte l'ADN de chacune des marques et soit aligné avec le discours que doit porter la marque. Et puis chacun d'entre eux font appel à des agences partenaires. On privilégie des partenariats sur le long cours pour justement construire durablement une cohérence et avoir de l'impact pour chacune de nos marques. Et Manon l'a précisé, ma volonté aussi, en accord avec chacun d'entre eux, c'était qu'ils développent une expertise particulière au service du design et du groupe Atlantique. Donc Manon sur la partie Color and Trim, Amaury Mahler qui a une autre branche, lui c'est plutôt sur toutes les questions au niveau du DIY, et ainsi de suite. Et pour terminer, quand j'ai un petit peu préparé cette interview, je me suis souvenu que dans mon parcours, j'avais eu la chance de rencontrer 3 mentors qui avaient été importants pour moi. Stéphane Gauthier, en 2010, qui m'a apporté beaucoup sur la notion de design de marque et qui m'a fait prendre conscience que le design était un vrai contributeur de la valeur immatérielle de la marque. Alors peut-être aujourd'hui, ça paraît à la fois naïf et puis... surprenant, mais en tout cas, ça m'a permis de mieux organiser notre portefeuille de marque, de définir les codes identitaires et de construire, voilà, c'est ce qui était en 2010 un démarrage, puisque on avait moins de marques, mais on avait aucune différenciation de produits entre les marques, c'était juste un petit branding, voilà. Donc voilà, on a construit ça. Alors ça prend du temps. Ça prend du temps parce que le renouvellement de nos produits est plutôt lent. Nous, on a la chance, et je crois qu'aujourd'hui, c'est une vraie chance d'avoir des produits qui sont pérennes, et on les dessine en ce sens-là. On a des produits qui durent, qui font partie du bâti. Voilà, donc ça, Stéphane Gauthier a eu un rôle important. Le second, c'est Vincent Créance, qui est aujourd'hui au Design Spot Paris-Saclay, qui a été un vrai aiguillon et qui m'a permis de structurer la démarche design au sein du groupe et qui a donné du poids pour enclencher toute la démarche design et de s'assurer que le design, que tous les acteurs du groupe Atlantique faisaient appel au design. Donc, je suis très reconnaissant de ça. Et puis, plus récemment, et maintenant, on va certainement en parler mieux que moi, Patrick Jouffret, qui est de l'agence 360 et qui est l'agence qui accompagne la marque Tarmor, notamment. Et je trouve que Patrick, avec Manon, nous ont permis de franchir un cap. On va plus au cœur de la marque. On a aujourd'hui, après une grande étape de convergence qui aura duré quelques années, et où chacune des marques devait trouver sa place, là, on va vraiment au cœur de marque, au cœur d'une identité, avec un discours, une communication, un produit qui fait un vrai lien. Et ça, c'est une vraie satisfaction d'arriver à ce niveau-là aujourd'hui.
Je vais parler donc de la marque Tarmor dont je suis référente pour le groupe. Donc déjà, la marque Tarmor, c'est une marque qui est vendue donc, pour le réseau professionnel. Ce sont des solutions de confort thermique. Il va y avoir du radiateur, du chauffe-eau, sèche-serviette, climatisation, mais également des produits de plus en plus techniques puisqu'on s'ouvre sur les marchés de la pompe à chaleur. Et la pompe à chaleur donc pour la maison, mais également la pompe à chaleur pour les piscines. Donc ça regroupe un très grand nombre de produits aujourd'hui. Donc comme le disait Emmanuel, je travaille avec une agence de design externe, Atelier 360, avec Patrick Jouffret et Julien Primard. Du coup, je vais vous parler de mon rôle en tant que designer intégré pour la marque Tarmor avec Atelier 360. Donc en interne, on travaille sur le design de marque, sur les différents développements produits donc pour la marque Tarmor également, et également sur différents outils internes qui nous permettent justement de justifier les choix design qu'on peut faire au fur et à mesure des développements produits. En tant que designer intégré à une entreprise, c'est important de s'intégrer dans les méthodes projet du groupe. Et ça nous permet vraiment d'apporter de la valeur au design à différentes étapes. Je parle de l'analyse du besoin client, de l'observation terrain. On va faire des rencontres avec les installateurs pour connaître vraiment comment ils installent nos produits, quels sont les points positifs et les points négatifs sur nos solutions actuelles et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour demain. Le groupe Atlantique, c'est vraiment un groupe plutôt axé très industriel, en fait, où chaque choix qu'on va faire d'un point de vue design et produit va devoir être factualisé. Il y a une grosse attente. On a quand même un univers où les contraintes thermiques, les tests labos, la faisabilité technique est très, très, très présente. Et du coup, le design, pour être valorisé, accepté et qu'on trouve vraiment notre place en interne, on a besoin donc de mettre en place ces différents outils. Donc, quand on pense différents outils, on a bien sûr donc les design books. Donc, pour la marque Tarmor, on avait commencé par faire un design book en 2016, déjà avec Atelier 360. On est en train de le remettre à jour. On a également des grilles d'évaluation de qualité perçue. Donc, quand on développe un produit, à chaque étape de son développement, on va le faire passer à travers une grille de qualité perçue qui nous permet de vérifier chaque détail d'un produit. Et cet exercice, en fait, ce qui est important, c'est qu'on le fait en équipe, donc avec différents métiers, marketing, R&D, labo, enfin tous les gens qui ont constitué ces équipes projet. Et ça nous permet vraiment de justifier les choix et de fluidifier le processus en fait, de création. Une fois que tout le monde est d'accord sur l'objectif et où est-ce qu'on veut en venir sur le produit au bon niveau de gamme, on est beaucoup plus sûr d'avancer tous ensemble et de proposer un produit juste et qui va être au bon coût, faisable et puis techniquement, et puis qui répondra également aux besoins clients. Au niveau des missions, chez Tarmor, on essaye de bien sûr proposer des solutions de confort durable. Et donc ça, il y a plusieurs leviers qui sont possibles. Donc déjà, dans le choix des matériaux qu'on va faire quand on dessine un produit, on va plutôt choisir des matériaux robustes. On va éviter les imitations de bois, par exemple, ou les choses comme ça. On va toujours travailler sur des assemblages qualitatifs et surtout des formes intemporelles. Aujourd'hui, nos produits, donc Emmanuel l'a dit également, mais c'est des produits qui vont vivre 10, 20 ans dans un habitat. On est hors des durées de la décoration, donc on se doit de dessiner des produits qui sont là pour être intemporels et durer dans le temps et dans l'habitat. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est des formes qui doivent s'inscrire dans la durée. Comme je le disais, chez Termor, dans le design book, on a choisi de faire différentes catégories. En fait, nos différents produits, comme ils sont assez variés, on va les répartir selon leur lieu d'usage. C'est-à-dire qu'on ne traitera pas de la même manière les produits qui vont être intégrés dans les pièces de vie. Donc, je pense aux radiateurs, aux sèches-serviettes. Là, donc, on pense vraiment au client final qui va être celui qui va l'utiliser tous les jours dans sa maison. Là, on va réfléchir à comment simplifier son installation, mais aussi quelle forme, quel langage formel on souhaite lui donner, que cette solution soit évidente, que l'interface soit simple à utiliser. Alors que, par exemple, si on traite des produits qu'on va retrouver plutôt dans les pièces techniques, type garage, buanderie, et donc là, on est plus sur les univers des chauffe-eau ou même des unités intérieures de pompe à chaleur, alors là, le curseur, il va être plutôt du côté de l'installateur. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à l'installation facile. Ça va être des produits beaucoup plus simples formellement. Mais on va mettre la valeur sur la durabilité, sur la robustesse, sur les assemblages. L'interface, il faudra qu'elle soit simple à utiliser, sur la maintenance. Dans Europe Atlantique, on parle d'hygiène moteur. C'est-à-dire que en design, on va même travailler sur tous les marquages, les pictos, les notices qui vont permettre de faciliter justement cette installation et ce montage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on fait énormément d'observations terrain et d'enquêtes installateurs. Donc, il y a même des journées de vie ma vie où on va avec l'installateur faire des chantiers pour se rendre compte en fait des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Par exemple, en 2018, on a refait entièrement une plateforme de chauffe-eau. Et quand on a refait cette plateforme, on s'est vraiment rendu compte que les chauffe-eau étaient très compliqués à porter et souvent très très lourds. Et du coup, dans la définition, par exemple, des capots, donc des dessus et des dessous des chauffe-eau, on a intégré directement des grosses préhensions, des grosses poignées. Et ça, c'est des choses... Enfin, ça va de soi, maintenant que je le dis avec du recul, mais c'est des choses qu'on a appris et qui étaient très percutantes quand on a fait ces journées avec les installateurs. La dernière partie, c'est la partie donc extérieure à l'habitat, avec les pompes à chaleur et les pompes à chaleur de piscine. Là, les contraintes sont encore différentes. Il faut qu'on fasse partie du bâti, on se doit d'être bien intégré et de limiter au maximum donc la pollution visuelle et acoustique de nos propositions. Donc là, du coup, je disais au début du podcast que j'étais aussi référente couleurs et matières, et je me fais accompagner en fait de différentes agences de coloristes, avec Béatrice Mange et avec l'agence Nakara également, qui m'ont donné la vision en fait sur les gammes de couleurs des façades des bâtiments dans l'univers des différentes villes en France. On travaille avec ces agences pour savoir quelle gamme colorimétrique serait intéressante à avoir dans nos catalogues, et on travaille également donc sur l'intégration architecturale de ces solutions.
J'ai une petite question. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez plusieurs sites, que les équipes R&D, elles dépendaient de ces sites-là. Et du coup, comment vous travaillez en relation entre les marques et les sites et les équipes R&D, du coup ?
C'est un projet se constitue toujours d'un trinôme qui est un chef produit, un chef projet et un contributeur design. Et le poids du design est différent selon le type de produit. C'est-à-dire que le designer peut être leader dans certains projets et contributeur dans d'autres. Donc en fait, voilà, c'est un trinôme avant tout. Et après, la relation avec la communication et la marque se fait via le marketing ou via le design. Mais ils ne sont pas partie prenante dans le projet. Et c'est pour ça qu'on a ces garde-fous, c'est-à-dire que ces outils comme le guideline design notamment sont écrits et validés en amont pour s'assurer et pour que tout le monde ait un très bon niveau de confiance sur le résultat qu'on va atteindre. Et vous avez raison de poser cette question parce qu'il y a une vraie complexité. Et vous devinez qu'aucun de nos sites fabrique tous les produits. Donc chacun d'entre eux fabrique un et ou plusieurs produits. Et donc, il faut composer avec ça. Et à partir des plateformes techniques, à quel niveau on met la différenciation des marques par rapport à la valeur que ça va apporter sur nos marchés. Manon a pris 3 exemples qui sont justes. La question de la différenciation dans la partie de l'habitat, ou la désirabilité, la notion non pas de décoration, comme Manon l'a bien dit, mais d'intégration dans l'environnement, etc., est bien plus forte là. Et le poids décisionnaire du client final est bien plus fort ici que dans des produits beaucoup plus techniques, où la valeur va être portée vraiment depuis l'intérieur du produit vers l'extérieur. Faire un sur-style, alors je ne sais pas comment vraiment l'appeler, mais sur des produits de pompe à chaleur ou techniques, serait une erreur. À double titre, c'est-à-dire qu'on ne comprendrait pas pourquoi on a mis autant de valeur sur quelque chose qui n'en a aucune pour un client installateur. En revanche, c'est ce que j'appelle des astuces. Toutes ces petits points de praticité, d'aide, de qualité perçue qui donnent de la fierté d'installer un produit dont on voit qu'il est durable et dont on voit qu'il est robuste, ça c'est important. Ça, c'est important. Donc, est-ce que notre métier ne ressemble pas à une grande table de mixage avec des curseurs qu'on doit pousser? Ben, c'est un peu ça, finalement, par rapport aux clients et à qui on adresse. Et puis, cette notion de partie prenante et de poids décisionnaire selon les situations. Et la marque Thermor n'est pas une marque qui adresse des marchés collectifs. Donc, pour des produits collectifs, on a encore d'autres clients qui peuvent être les bureaux d'études, les mainteneurs. Et là, on a 4, 5, 6 clients, des personnes différentes, celui qui installe, celui qui maintient, etc. Et il faut prendre en compte les irritants et les attentes aussi de chacun d'entre eux.
Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on est arrivé au terme du temps qui nous a accordé pour cet enregistrement. Merci beaucoup de nous avoir présenté qui vous êtes déjà et puis de nous avoir présenté tous ces outils très riches et de les avoir présentés si précisément.